Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point j'aime les lattés et combien ils m'accompagnent dans la création de contenu. Pour soutenir le podcast avec l'équivalent du prix d'un latté, rendez-vous sur Patreon. Sinon, vous pouvez vous abonner au podcast et laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Comment naviguer en tant que femme et en tant que mère à l'ère de la maternité 2.0 ? Comment vivre sa monoparentalité en tant qu'expatriée ? Dans un cadre intimiste, Amélie Bonguet répond à ces questions et nous parle aussi de son schéma familial. Bonne écoute.
Alors, je suis Amélie Bonguet, je viens d'avoir 29 ans. Je suis une femme qui aime la vie, je dirais. Je suis maman d'un garçon de 5 ans qui aura 6 ans dans quelques semaines, qui va rentrer en primaire, phase très très importante pour moi aujourd'hui. Professionnellement, je suis brand manager. J'ai rejoint récemment le groupe Electronica au sein du siège suédois ici à Stockholm. Stockholm étant l'un des plus gros bureaux d'Europe de l'entreprise. Je travaille sur la division Racing pour le compte d'une franchise mondialement connue. En parallèle, je suis également autrice d'un tout premier ouvrage qui est sorti le 13 octobre 2021, qui s'intitule « Génération TikTok, un nouvel Eldorado pour les marques », paru aux éditions Duno, et conférencière dans le cadre de thématiques liées aux nouvelles technologies, à l'innovation, aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à toute l'émergence des nouveaux formats de contenu sur Internet.
Moi, j'ai envie de connaître un petit peu ton schéma familial, à savoir si du coup tu as des frères et sœurs, tu es dans quelle position par rapport à ta fratrie, s'il y a fratrie.
Oui, bien sûr. Merci pour cette question parce que on me la pose jamais. Écoute, moi je suis issue d'une fratrie de deux grands frères et d'une grande sœur, donc je suis la dernière. Moi je viens d'avoir 29 ans, je suis vraiment la petite dernière. Ma mère me dit souvent que je suis un peu un enfant de la retraite. Je pense que c'est vrai avec le temps. Ma mère, elle m'a eu à 42 ans. Je trouve que c'est incroyable. Il faut qu'on se dise les choses. On ne vit pas du tout la même époque que nos parents. Ma mère a eu 70 ans. Donc, c'est vrai que j'ai un écart assez important avec mes frères et sœurs. Ma sœur et moi, on a 18 ans d'écart. C'est énorme. Et en même temps, on n'a pas du tout traversé les mêmes choses. Moi, je suis arrivée l'année où elle fêtait ses 18 ans. Donc, c'est vrai qu'en termes de schéma familial, je pourrais pas dire qu'elle m'a toujours pris sous son aile, bien que ça reste ma grande sœur, mais c'est vrai que j'ai toujours été la dernière et peut-être pas autre chose. J'ai deux grands frères qui ont aujourd'hui passé la cinquantaine avec des historiques assez proches. Finalement, mes deux grands frères sont très proches et je dirais que je suis assez proche de mes frères et sœurs parce que j'ai fait ce travail peut-être personnel, moi, de me rapprocher plutôt de ma fratrie. On a toujours grandi ensemble, on a toujours été élevés ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le fait d'être partie. Je me sens peut-être un peu plus proche d'eux aussi virtuellement, même si on n'a jamais été vraiment séparés, quoi. Mes parents ont vécu de merveilleuses années au Cameroun, puis en France. J'ai perdu mon père il y a 2 ans. Mon père est décédé en octobre 2020. Novembre 2020, pardon, excuse-moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a troublée, tu vois, ne serait-ce que d'en parler là, c'est vrai que ça me trouble un peu. Je suis toujours en train de faire le deuil du décès de mon père, avec qui j'étais extrêmement proche, très très proche. On s'appelait quasiment tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une absence terrible dont je me souviendrai probablement toute ma vie.
C'est vrai que le deuil, quand t'es plutôt jeune, c'est pas facile en fait. C'est pas des questions qu'on aborde beaucoup, donc merci d'en parler.
Oui, et puis je pense que c'est un sujet qu'il faut libérer peut-être. On n'a pas de représentation de personnes qui ont probablement vécu des décès parentaux de cette manière-là et qui l'exposent aussi. Et puis je pense qu'il faut aussi laisser à chacun le temps de prendre le temps de vivre son deuil, parce que c'est un temps qui est pour moi assez incompressible et qui dépend finalement de l'individu qui traverse le deuil. D'ordre général, je dirais que c'est un sujet qui se vit de manière unique.
Et du coup, bah là, on a parlé du deuil et donc de la mort, mais je t'invite aujourd'hui parce que tu as donné la vie, notamment avec ton petit garçon. Et moi, ma question, c'était de savoir à quel moment tu as su que tu voulais un enfant, à quel moment ton désir d'enfant est né, s'il y a eu un moment.
Eh bien, moi, j'ai toujours voulu être maman très jeune. Je dirais que ça a toujours été un projet de vie. J'ai eu un enfant avec un homme que j'ai aimé très très longtemps, que j'avais présenté à ma famille, à mes amis, à mon entourage très proche. Et c'est vrai que le projet d'avoir un enfant en commun s'est présenté les premières années après notre rencontre. Et j'ai eu mon fils à l'âge de 23 ans. J'ai beaucoup appris de cette expérience et je continue encore à apprendre. Je dirais que ce que j'ai le plus apprécié, c'est d'avoir peut-être dissocié mon identité individuelle de mon identité de maman, mais aussi de mon identité en couple. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours servi et sur lequel je me suis toujours appuyée pour évoluer dans tout ce que j'entreprenais, en fait. Et beaucoup de femmes deviennent mères sans forcément aussi se connaître. Et je pense que c'est important aussi de ne pas s'oublier en tant que personne. Et moi, je pense que c'est sans doute ma plus grande fierté de ne pas uniquement me reposer ou m'identifier au prisme de ma maternité. Je pense que c'est pas forcément la première chose que je vais dire quand on me demande de me présenter ou de me décrire, en fait. Et ça veut dire aussi que je suis maman, mais pas uniquement.
Et ça, c'est fort parce que tu vois, je sais pas comment j'ai découvert que tu étais maman et je t'avoue que je m'étais dit, mais elle est trop forte parce que je n'avais jamais capté qu'elle était maman. Quand une femme devient mère aujourd'hui, comme il y a ce truc de il faut plus cacher, il faut vivre sans tabou, etc., bah, beaucoup de femmes, du coup, exposent leur maternité, exposent même tout leur parcours, en fait, de femme enceinte et tout ça. Et t'as plein de femmes qui aujourd'hui vivent sur les réseaux sociaux de par leur maternité. Et du coup, toi qui est en plus expert des réseaux sociaux, j'ai trouvé ça puissant que ta casquette de maman, finalement, tu la mets pas plus en avant que ça.
Moi, j'ai fait le choix de ne pas exposer ma maternité de l'accouchement aux premières dents, à la première marche, à la première phrase. Un choix que j'assume aussi complètement et finalement, on découvre au fur et à mesure, quand on me suit, que je suis maman. Et je pense que ça me va très bien. Sur la question, on va en parler peut-être par la suite, mais tu vois, de l'expatriation, ça n'a pas du tout été un choix professionnel. À l'origine, c'est vraiment un choix organique, c'est un choix qui vient du cœur, c'est un choix humain, et puis c'est un choix profond pour mon fils et quelle éducation j'ai envie de lui offrir. J'avais envie d'une chose, d'une éducation et d'un modèle profondément différent de celui que moi j'avais pu avoir. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui a pu surprendre quand je ne raconte pas finalement ce que je traverse dans ma maternité, à savoir la monoparentalité, que je n'ai pas finalement hyper exprimée jusqu'à pas plus tard que ces derniers mois. Et donc finalement, tous ces choix aussi que l'on vit, c'est des cycles qui se vivent en conscience et avec avec beaucoup de cœur, je pense. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je choisis de ne pas exposer ma maternité parce que c'est pas ce qui me semble le plus désirable, je dirais, à l'instant T, en tout cas sur les plateformes sociales. Et puis, en tout cas, ce que je vis, ça me convient de le vivre comme ça aussi, sans forcément le raconter. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout raconter. Et moi, j'ai fait peut-être le choix de ne pas raconter ma maternité et je m'en veux absolument pas pour ça.
Ah, mais je pense que, tu vois, la beauté de notre société actuelle, c'est qu'on peut avoir le choix, en fait. Jusqu'ici, il n'y avait pas forcément le choix. Si tu ne pouvais pas te montrer à une époque. Aujourd'hui, tu peux ou pas ne te montrer. Et je pense qu'il faut montrer aussi les personnes qui ont choisi en pleine conscience, tu vois, de se dire, bah, j'ai cette possibilité de me montrer sur les réseaux si je le souhaite. Moi, je connais très bien ces réseaux sociaux et c'est pas quelque chose qui me parle, en fait. Et moi, je pense qu'il faut cette pluralité aussi de personnes et qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Et donc, je pense que ton récit est important parce que ça permet aussi à des femmes qui, potentiellement, ne se voient pas dans ce modèle de « je montre toute ma vie, je suis sans tabou, etc. » Et moi, je trouve ça puissant, en fait, de pouvoir choisir ce qu'on veut montrer ou pas, ce qu'on veut garder dans son intimité, ce qui est, je trouve, de plus en plus difficile de nos jours. Mais j'avais envie de savoir quand même comment est-ce que tu vis ta monoparentalité aujourd'hui et surtout comment cette monoparentalité a motivé ton départ, du coup, à Stockholm.
C'est vrai que la monoparentalité, je la vis beaucoup mieux depuis que je suis arrivée à Stockholm, je vais pas te mentir. Hein. À Paris, j'avais, je dirais, peut-être des blessures de ma séparation qui pesaient. Je n'arrivais peut-être pas à laisser fléchir. Et c'est vrai que mon arrivée à Stockholm, elle m'a permis de repenser tout ça. Peut-être de tourner la page aussi, aussi bien émotionnelle que structurelle. Je dirais pas sur le plan amoureux, puisque le plan amoureux, je l'avais déjà pensé. Mais c'est vrai que mon arrivée ici m'a vraiment permis de laisser cette histoire derrière moi et de mieux épouser aussi ma vie de mère seule dans un pays d'Europe, autre que celui qui m'a vu naître. Je me sentais peut-être probablement aussi étouffée par l'atmosphère dans laquelle je naviguais, à la fois durant le confinement, puisque ça a été un déclic pour m'expatrier, mais pas uniquement, puisque j'avais déjà des envies d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense que ce confinement, comme beaucoup de personnes qui l'ont vécu, a permis aussi de se reposer les bonnes questions. Et je pense que c'était important de passer par cette case. Mais c'est vrai que j'avais profondément envie de changer quelque chose autour de moi. Et je pense que pour être bien, il faut aussi voir l'environnement dans lequel on est. Alors peut-être pas changer de pays, mais peut-être changer de ville, ou alors changer d'habitat, si on peut se le permettre. Mais je pense que l'environnement détermine beaucoup de choses autour de nous. Et puis moi, je suis quelqu'un de très énergétique. J'avais besoin de nouvelles énergies. Je pense que la ville dans laquelle j'étais, donc pas très loin de chez mes parents, me rappelait beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et j'avais envie d'ailleurs, en fait, tout simplement. Je me suis écoutée, j'ai pris le temps de mesurer mon écoute et donc de travailler ce désir d'ailleurs qui m'a permis finalement d'affirmer davantage cette monoparentalité que je vis depuis 3 ans. Ouais.
Et concrètement, dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que tu vois ce changement s'opérer dans ta vie de femme, dans ta vie professionnelle?
Tu vois, j'ai ma meilleure amie qui est venue me rendre visite ce week-end, elle m'a dit « Mais franchement, Amélie, je comprends en fait pourquoi tu as toujours été attirée par Stockholm, parce que c'est vraiment une ville qui te ressemble. » Elle a adoré le soir quand on allait se balader en forêt. « Bah vas-y meuf, on va prendre le dessert en forêt. » Elle me dit « Mais quoi ?» Okay. J'ai dit « Tu sais très bien, Samantha, à Vitry, j'aurais jamais fait ça. » Je laisse mon fils à la maison, le temps qu'il s'endort tranquillement. Et puis, on prend le dessert en forêt, on fait l'aller-retour et ça nous fait une super balade. Et c'est des habitudes, mais peut-être parfois bêtes, mais que j'avais pas du tout, en fait, là où j'étais avant. Autre chose, l'équilibre, je trouve que je dors mieux déjà. Sur les dernières semaines, je dirais même les derniers mois, j'avais du mal à dormir. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui me traversaient l'esprit aussi. Le deuil de mon père, beaucoup de flashbacks. On n'en parle pas aussi, mais quand on perd un parent, il y a beaucoup de choses qui reviennent à la surface. Notre éducation, ce que le parent nous a laissé. Je me pose beaucoup de questions ces dernières ces derniers mois sur ce que mon père m'a laissé, finalement. Qu'est-ce que j'aide mon père? Alors, oui, on a toujours des amis ou la famille qui vont dire « Oh, t'as les mains de ton père. » Et puis oui, j'ai le même grain de beauté que mon père, au même doigt qu'il avait. Donc, tu vois, plein de petits détails comme ça. Ça travaille beaucoup de choses, en fait, en soi. Et je me dis, moi aussi, finalement, qu'est-ce que je vais construire pour laisser des choses à mon fils? Parce que forcément, quand on a un enfant, on laisse un héritage. Faut pas qu'on se l'oublie, on transmet quelque chose. Et quand je regarde mon fils grandir, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a de moi? C'est que maintenant que je commence à percevoir ce que mon fils a de moi. Et ça me fait sourire, et puis je suis aussi contente de me dire que mon fils a connu mon père. Des fois, à table, il dit, oh maman, tu te souviens, Pépé, quand il me donnait ça? Et je me dis, mais waouh, il s'en souvient, quoi. Des fois, mais moi, je souris, je me dis, mais il s'en souvient. Et oui, ça me touche. Donc, il y a ce rapport peut-être avec mon fils beaucoup plus proche qu'avant, parce que ici, on n'a pas la famille. Son père est toujours en France, donc il voit son père pendant les vacances scolaires. Mais c'est vrai que je suis la personne qui voit le plus sur une année. Je suis sa mère, il vit avec moi. Et c'est vrai que notre proximité, elle est de plus en plus proche. On arrive à palper nos émotions. Je dirais que j'ai une complicité beaucoup plus forte, peut-être, depuis que je suis à Stockholm. Peut-être un peu moins à Paris, parce que j'avais tendance à parfois le laisser chez ma sœur, donc il jouait avec mes neveux. Ou alors, il allait chez son père beaucoup plus fréquemment, c'était un week-end sur deux. Et puis, d'école avec le cercle du centre de loisirs. Voilà, je dirais que notre arrivée à Stockholm a renforcé aussi notre complicité. Et puis, je me suis rendu compte que élever un petit garçon noir dans un pays scandinave, c'est pas la même chose qu'élever un petit garçon en France, encore moins en Afrique. Et puis, je me rends compte aussi que tout repose quasiment sur moi. Beaucoup de décisions reposent sur moi, le choix de l'école, et puis quel type d'école. Là, il rentre en primaire, donc c'est des vraies décisions à prendre. Le troisième point, je dirais aussi que finalement, je vis pleinement les choses à peut-être 1000% sans me préoccuper peut-être du lendemain. Je dirais que c'est avant la crise, j'étais quelqu'un qui adorait peut-être tout penser sur les 8 prochains mois. Et finalement, je pense que la crise sanitaire qu'on a traversée, moi j'étais encore confinée en banlieue parisienne, ça m'a appris peut-être à lâcher du lest aussi. Je dirais pas que j'étais contrôle fric, mais c'est vrai que j'aimais avoir une vision sur limite l'année prochaine, quoi. Et puis je pense que avec cette pandémie, ça a remis un peu les pendules à l'heure à beaucoup de gens. Et en discutant avec un très bon ami à moi qui m'a beaucoup soutenu pendant la pandémie aussi, qui a pris le temps de m'appeler, qui a fait des visios avec moi, avec qui j'ai beaucoup discuté, ça m'a aidé à y voir plus clair aussi sur ma manière de peut-être gérer ma vie aussi. Parce que je pense que quand on planifie les choses comme ça à l'avance, ça dit des choses un peu sur nous, sur probablement cette peur du lendemain ou cette peur de tout perdre à nouveau. Mais je dis toujours, quand on n'a pas eu, on sait ce que c'est de tout avoir. Et moi, j'ai appris à tout déconstruire. Donc, j'ai manqué à certains moments. Le contexte social est beaucoup moins important. Il y a un facteur aussi social, en tout cas dans le climat parisien, si je me restreins sur Paris et sa banlieue, est très lourd à porter par les différents événements sociaux et tout ce qu'on traverse en termes de crise même, je pense, identitaire au-delà de crise sanitaire. Et je pense que profondément, tout ça, ça joue en fait dans le schéma et la construction de ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Et je dirais que le contexte suédois qui prône quand même une liberté de l'enfant, on est dans un pays où quand même les enfants ont quasiment les pleins pouvoirs. J'exagère un peu le trait. C'est plutôt aux parents, finalement, de gérer toute l'organisation autour de l'enfant et ce que ça découle aussi d'être parent. Et je dirais que, finalement, tout dépend de la vision qu'on a aussi sur notre parentalité. On a une vision de notre vie amoureuse, on a une vision de notre vie professionnelle. On peut avoir aussi une vision de notre parentalité. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques temps maintenant. Conduit à m'expatrier. Donc, je dirais pas que c'est plus facile, je dirais surtout que d'un point de vue d'expat, c'est savoir ce qu'on est venu chercher. En étant expatrié, c'est très facile de s'oublier. Très facile d'oublier d'où on vient. Et puis, on est dans un brassage culturel incroyable. Donc, c'est important de savoir ce qu'on est venu chercher pour construire sa maternité ou au contraire, construire aussi.
Et donc là, moi, j'ai fait un comparatif de pays, on va dire. Là, moi, j'aimerais du coup avoir ton regard d'experte pour justement faire une petite analyse rapide, hein, mais du changement qu'il y a entre aujourd'hui et il y a 6 ans. Et moi, c'est de savoir, bah, que penses-tu de cette évolution, notamment sur la prédominance aujourd'hui?
Les plateformes sociales, finalement, c'est le miroir du reflet de la société et de ce que les femmes traversent. Donc, je pense que cet accès au contenu de tout type, hein, de toute nature, permet finalement à tout un chacun de s'identifier ou pas aussi aux personnes qu'elles décident de suivre sur des thématiques qui potentiellement les intéressent. Et c'est vrai que moi, il y a 6 ans, il n'y avait pas cette masse de contenu sur la maternité, la parentalité. Et finalement, cette démultiplication des sujets, on peut en faire des micro-sujets hein, de toute nature, l'allaitement, la puériculture, les premiers pas, l'éducation bienveillante, la positivité, c'est des sujets dont on ne parlait pas sur Internet ou alors qu'on retrouvait sur certains forums dits spécialisés. Ou alors qu'on retrouvait sur au sein de magazines à destination des parents. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont accéléré aussi la démocratisation de ces sujets-là. Les quelques mamans que je suis sur les réseaux sociaux, c'est parce que je les connais dans la vie de tous les jours et qu'au-delà de leur casquette de maternité et donc de mère, de maman, elles aspirent à autre chose et elles ont d'autres projets de vie. Et je dirais même heureusement, parce que la féminité, elle ne s'arrête pas à la maternité. Et je pense qu'il faut absolument qu'on démocratise ça aussi, puisqu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'enfants, qui pensent que dès lors qu'on devient maman, tout s'arrête. C'est pas vrai. On peut faire beaucoup de choses en étant maman. Et la maternité change à plein d'égards. Les envies qu'on avait avant notre grossesse peuvent changer durant la grossesse et même après. Et tant mieux. Mais je pense que les émotions aussi jouent et profondément bouleversent tout le circuit hormonal, tout ce qui en découle. Donc je dirais que finalement, sur Instagram, comme sur d'autres plateformes, il faut faire un tri assez important sur qui on choisit de suivre pour ne pas se laisser influencer par toute la source de contenu qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes. Et j'insiste, je pense que tout contenu qui n'est pas bien pour notre santé mentale peut être dangereux, voire nocif, et donc provoquer de la haine ou du dégoût, voire du mépris. Donc je pense qu'il faut définitivement se faire du bien. Et se faire du bien, ça passe aussi par sélectionner ce qu'on veut suivre directement sur les différents canaux.
Et ça, c'est vraiment important de le rappeler et de le dire même, parce que je crois qu'on n'entend pas souvent ce genre de conseils, voire de discours. C'est vrai que d'un côté, on encourage les gens à faire un tri dans les comptes qu'on suit, mais d'un autre côté, comme sur les autres plateformes, il n'y a pas beaucoup de ressources de ce type-là, les gens se retrouvent un peu obligés de rester en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a des bouquins qui commencent à être écrits sur ces sujets-là, mais c'est vrai que tout se passe sur Instagram, on dirait. Voire, bon, pas TikTok, je sais pas, peut-être. Mais j'ai l'impression que si t'es une maman qui va bientôt accoucher et que tu veux des tips ou que tu veux voir des femmes qui te ressemblent, tu vas aller sur Instagram, quoi.
Ta question, elle me fait sourire, Tsipora, parce que j'aime bien la manière dont tu la poses, en fait. Tu me dis, j'ai l'impression que tout se passe sur Instagram, quoi. Et en même temps, moi, ça me renvoie à ma mère. Ma mère, elle n'était pas de la génération Instagram. Et pour te mettre dans la confidence, ma mère, elle n'a jamais eu de téléphone portable. À 70 ans, ma mère n'a jamais eu de téléphone portable. Donc, on peut très bien vivre sa maternité en se passant des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vivier incroyable d'informations, mais encore une fois, il faut bien s'en servir. Parce que comme tout vivier d'informations, ça aussi, c'est travers. Je dirais que ce qui est en train, en tout cas, d'éclore sur le sujet et toutes les libérations, toutes les formes de libération de parole sur les différents tabous que recouvre la maternité sont bonnes à prendre. Moi, je suis très contente d'avoir de voir, surtout dans les rayons des librairies, plusieurs ouvrages sur la maternité. Je pense que c'est des choses dont on pouvait rêver il y a encore 40 ans. Et aujourd'hui, de voir qu'il y a de nouvelles autrices un peu plus tous les jours qui pensent le sujet, qui donnent un point de vue, je trouve que c'est super et c'est incroyable en termes de puissance. C'est des outils parce que les écrits restent profondément et c'est des choses qui se transmettent aussi avec le temps. Donc, je dirais que sur les réseaux sociaux, alors oui, on a des informations, mais on n'a peut-être pas tout. Et puis, encore une fois, ça dépend de qui on va suivre et ce qui nous intéresse vraiment.
Et du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu n'as peut-être pas exprimé pendant cet échange ?
Écoute, je suis ravie que tu m'aies invitée au sein de ton émission. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ma maternité profonde, et même de mon schéma familial et comment je vivais ma monoparentalité. Donc, je te remercie pour ces questions parce que ça fait du bien. Et je pense qu'on a beaucoup tendance à se cacher derrière parfois nos projets aussi professionnels en oubliant un peu notre individualité. Je pense que c'est le schéma humain. Donc, je te remercie d'avoir pris ce temps pour tout simplement échanger et recentrer l'humain au sein de cette conversation. Donc, merci.
Merci Amélie pour cet épisode. Merci Émilie pour l'écriture. Merci Alice pour le montage. Rendez-vous sur Instagram Tant que je serai noire ou par mail contact@tantquejeserainoire.com pour échanger. À très vite.